Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VO Afrique à Washington. Joyeux Noël à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 25 décembre 2017. À la une, Vatican, le pape implore la paix pour Jérusalem, mais aussi pour plusieurs conflits dans le monde et en Afrique.
Vediamo Gesù nei bambini dell'Africa, soprattutto in quelli che soffrono in Sud Sudan, Somalia, in Burundi, nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centrafricana e in Nigeria.
Des morts en RDC, 9 militaires tués dans 2 embuscades dans le sud Kivu. Au Tchad, Idriss Déby Itno remanie son gouvernement qui passe de 37 à 24 portefeuilles. Plusieurs ministères clés touchés. En Russie, l'opposant Alexei Navalny écarté de la course à la présidentielle. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, Noël a été marqué par cette nouvelle tragédie touchant l'armée. 9 soldats ont été tués dans 2 embuscades et l'armée pointe du doigt les miliciens Mai Mai. On fait le point avec Raïssa Girondin.
Selon des sources militaires, les 2 embuscades ont eu lieu dans la zone opérationnelle de Baraka, dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Selon l'AFP, les forces armées de la RDC accusent les miliciens Mai Mai d'être responsables de ces embuscades, bien que ces derniers aient perdu d'importants matériels. Les Mai Mai sont des groupes armés actifs qui, durant la Deuxième Guerre du Congo, ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais et rwandais. Certains n'ont jamais été désarmés. Depuis le début de l'année, des miliciens attaquent régulièrement les positions de l'armée congolaise dans le sud Kivu et le nord Kivu.
Toujours en RDC, une résidence du président Joseph Kabila a été incendiée par des présumés miliciens la nuit dernière, causant la mort d'un policier dans l'est du pays. Selon une source sécuritaire, les assaillants, qui seraient des Mai Mai, ont tout pillé avant de mettre le feu à la maison et à quelques véhicules qui s'y trouvaient. Remaniement gouvernemental d'envergure au Tchad, le président Idriss Déby Itno a réduit son cabinet et Bagassi Koura, c'est pour, dit-on, des raisons d'austérité.
Un décret présidentiel lu à la télévision dimanche soir réduit le nombre de ministres de 37 à 24. La nouvelle équipe gouvernementale est marquée par le départ de 8 ministres au total, tandis que 8 nouvelles personnalités y font leur entrée. Autre fait notoire, le ministre des Affaires étrangères Hissène Brahim Taha et de la Sécurité publique Ahmad Bachir cèdent leur portefeuille. L'Assemblée nationale tchadienne doit voter entre le 28 et le 30 décembre le budget pour l'année 2018 alors que le Tchad traverse une grave crise économique. Justement, aux finances, Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre par intérim depuis la démission de Christian George Digimbay le mois dernier, est confirmé à ce poste. Cette nomination intervient alors que le gouvernement tchadien négocie depuis plusieurs mois avec l'entreprise suisse Glencore au sujet des prêts gagés sur le pétrole tchadien et concernant une restructuration de dettes s'élevant à 1 milliard de dollars.
L'ancien président malien Amadou Toumani Touré est arrivé ce matin à Mopti, sa ville natale, dans le centre du pays. À bord d'un avion militaire, il a été accueilli par le maire de la commune urbaine de Mopti, des notables de la ville et une foule nombreuse. Dès son arrivée, l'ancien président a visité les tombes de ses parents derrière le fleuve. Il s'est ensuite rendu à Bandiara pour voir la tombe de sa mère. Selon la population, ce retour d'Atété est un signe de réconciliation nationale. On écoute Amadou Toumani Touré au micro de notre correspondant sur place, Mamadou Bokoum.
Après 5 ans et 8 mois d'absence, hier, j'ai coulé le sol de notre pays, à Bamako, où vraiment les populations, le président de la République lui-même et l'ensemble des autorités, le Premier ministre, le gouvernement compris, des parlementaires et tous, et surtout la population de Bamako, m'ont réservé vraiment un accueil qui m'a fait tout oublier. Mais au-delà de ça, il faut également, après Bamako, que je vienne à Mopti, Mopti du Sourd Papa, aller visiter le tombe de mes parents, de ma maman, décédée après moi, saluer les grandes familles et ensuite les faire savoir que je suis rentré. J'ai déjà mon champ ici que je cultive. Je ne peux pas faire autrement. Je suis parti là-bas pour le service. Si le service est terminé, je suis à la retraite. Je rentre chez moi. Je le souhaite pour notre pays. Nous n'avons pas le choix et c'est une obligation morale, sociale et politique.
et je souhaite de tout mon cœur que notre pays se retrouve.
Quelle est l'alternative pour la paix selon vous?
Que les cœurs s'ouvrent et que chacun joue franc jeu. C'est tout. C'est l'essence pour la paix.
C'était l'ancien président malien Mamadou Toumani Touré à Mopti. Toujours en rapport avec le Mali, la famille de Sophie Petronin, l'otage française enlevée dans le pays il y a tout juste un an, s'est dit aujourd'hui démunie, faute d'avancées concrètes ou d'informations récentes sur son sort, et souhaite que les choses s'accélèrent. À la tête d'une association d'aide aux orphelins, la septuagénaire a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. Aucun groupe n'avait revendiqué le rapt jusqu'à ce qu'en juillet, la principale alliance djihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, diffuse une vidéo montrant 6 étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont Sophie Petronin. En Côte d'Ivoire, des affrontements entre habitants de quartiers rivaux pour la construction d'un collège ont fait 4 morts à Kanakono, sous-préfecture du nord de la Côte d'Ivoire, selon des sources concordantes. Le début des travaux et le choix du site du collège dont la construction sera financée par le conseil régional figure parmi les causes de ces affrontements, a indiqué à l'AFP Jean-Baptiste Kouassi Aïe, le sous-préfet de Kanakono, confirmant le bilan de 4 morts donné par une source policière. Second tour de la présidentielle au Libéria demain. Il opposera le vice-président Joseph Boakai à l'ex-star du football et sénateur George Weah. Arrivé en deuxième position lors du premier tour de la présidentielle le 10 octobre avec 28,8% des voix contre 38,4% pour George Weah, le vice-président sortant a contesté pendant des semaines ce résultat devant la Commission électorale nationale puis devant la Cour suprême, arguant que le scrutin avait été entaché de fraude et d'irrégularité. Prévu initialement le 7 novembre, le second tour a été repoussé au 26 décembre, donc demain, après le rejet de ses recours. Les Émirats déclarent craindre un attentat pour expliquer les mesures ciblant les Tunisiennes. Dimanche soir, la Tunisie a annoncé avoir suspendu les liaisons quotidiennes de la compagnie aérienne Emirates en raison de l'imbroglio persistant autour du droit des femmes tunisiennes à embarquer sur des vols à destination des Émirats. Il y a des informations sécuritaires sérieuses chez les autorités émiraties sur la possibilité d'attentats terroristes, a dit la porte-parole de la présidence tunisienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Russie, la commission électorale a voté à l'unanimité et rejeté aujourd'hui la candidature à la présidentielle du 18 mars prochain de l'opposant Alexei Navalny, 41 ans, qui a aussitôt appelé ses partisans à boycotter le scrutin. La commission a justifié sa décision par une condamnation judiciaire dénoncée comme fabriquée par l'opposant. Alexei Navalny avait été condamné en février dernier à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds dans une affaire remontant à 2009. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a emboîté le pas à son homologue américain Donald Trump en annonçant hier le transfert à Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël, une décision saluée ce lundi par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a déclaré que d'autres pays reconnaîtront Jérusalem comme capitale d'Israël et annonceront le transfert de leur ambassade. Cette décision du Guatemala intervient malgré un vote de condamnation par l'Assemblée générale de l'ONU de l'initiative américaine. Un message de Noël sur fond d'imploration. Le pape François a appelé aujourd'hui à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. Il a aussi passé en revue de nombreux conflits dans le monde. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Avant la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, autrement dit, le pape François a dit espérer une reprise du dialogue pour une coexistence pacifique de deux États, israéliens et palestiniens. Après la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, le souverain pontife avait déjà appelé au respect du statu quo. Il a aussi évoqué les cas des enfants syriens marqués par la guerre, de l'Irak divisé par les hostilités, du Yémen où la faim et les maladies sévissent. Le pape a également cité le Soudan du Sud, la Somalie, le Burundi, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Nigeria. François a demandé à la communauté internationale de protéger la minorité musulmane apatride des Rohingyas. Il a déploré l'enfance volée, dit-il, de ceux qui sont obligés de travailler dès leur plus jeune âge ou qui sont enrôlés comme soldats par des mercenaires sans scrupules. Le pape est aussi revenu sur les migrants, un thème qu'il avait décliné lors de son homélie de la veillée de Noël.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'Angola est affectée par une pénurie de carburant. Depuis plus d'une semaine, la plupart des stations-service de la capitale Luanda sont assiégées par de longues files d'automobilistes en quête d'essence. Les stations-service de la plupart des autres provinces du pays sont elles aussi au régime sec. Les causes de cette pénurie restent encore mal éclaircies. Certains l'attribuent déjà à une fronde politique contre le nouveau président João Lourenço. Au Zimbabwe, un fermier blanc est revenu sur ses terres samedi et a exprimé sa reconnaissance au nouveau gouvernement d'Emmerson Mnangagwa et des producteurs de tabac et de maïs. Il avait été expulsé de sa propriété de l'Est dans la région de Makoni en juin dernier sous les menaces des armes. Il avait perdu des objets personnels, notamment des photographies de famille et de grands vins des ex-colonies portugaises d'Afrique transmis de père en fils depuis des générations. Enfin, le secteur textile sud-africain peine à redémarrer malgré le soutien des pouvoirs publics. Il est étranglé par la concurrence à bas prix venue surtout de Chine. La taxe sur les importations de matières premières constitue un frein au redémarrage du secteur. Il a perdu plus de 160 000 emplois en 15 ans, les deux tiers de sa main-d'œuvre totale. Beaucoup reste à faire pour restaurer la compétitivité et recréer une partie de ses emplois perdus. Le secteur textile contribue pour plus de 3% au produit intérieur brut sud-africain.
Évidemment, une musique qui ne trompe pas, c'est le sport. Yacouba Ouidrago est dans ce studio. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir, Yann.
Mbappé, Asensio, Semedo dans le 11 des révélations UEFA de l'année 2017.
Tout à fait, John. Une équipe surprenante avec un seul milieu de terrain, Harry Wicks. De Tottenham, il est entouré d'une armada offensive de qualité avec, entre autres, Marco Asensio du Real Madrid, Talisca du Besiktas, Timo Werner de Leipzig, Oberlin de Bale et l'inévitable Kylian Mbappé passé de Monaco au PSG.
Et Manchester City qui veut savourer les fêtes de fin d'année en s'approchant d'un record européen.
Effectivement, avec une série en cours de 17 victoires de rang en Premier League, les hommes de Joseph Guardiola sont proches de marquer davantage les esprits. En ligne de mire, le record du succès consécutif dans l'un des 5 grands championnats européens détenus depuis 2014 par le Bayern Munich, 19 victoires John, est réalisé sous les ordres du même Pep Guardiola. Mais pour dépasser le géant allemand, les Citizens devront d'abord se défaire mercredi de Newcastle à la faveur du Boxing Day.
Bien avant, ce mardi, Manchester United et Chelsea sont attendus au tournant.
José Mourinho et Antonio Conte passent ce jour de Noël à se creuser les méninges pour remettre leur formation sur le chemin du succès. Manchester United devra au moins assurer le service minimum à domicile contre Burnley après son match nul fâcheux 2-2 face à Leicester. Du côté de Chelsea, Alvaro Morata est attendu comme le Messi, incapable de faire sauter le verrou d'Everton 0-0. À l'absence de l'attaquant espagnol suspendu, les Blues espèrent retrouver du poids offensivement pour se défaire de Brighton.
Une bonne nouvelle cette fois-ci en tennis pour terminer. Serena Williams reprend du service, Yacouba.
L'Américaine effectuera sa rentrée le 30 décembre lors du tournoi exhibition d'Abu Dhabi. Serena Williams, 36 ans, n'a plus joué en compétition depuis le mois d'avril pour mettre au monde en septembre une petite fille. Elle affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko, lauréate du dernier tournoi de Roland-Garros. Serena Williams a remporté pour la 7e fois l'Open d'Australie en janvier dernier, son 23e titre du Grand Chelem alors qu'elle était enceinte.
C'était les sports, c'était Yacouba Ouidraogo. Joyeux Noël à toi.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, présenté par John Lyndon, produit par Michel Joseph, assisté de Raïssa Girondin. Place à présent au dossier du jour et on commence par la RDC où plus de trois mois après la décision du gouvernement congolais de suspendre pour six mois l'importation des bières et boissons gazeuses en provenance des pays limitrophes, les conséquences se font sentir au sud de Kivu, notamment à Uvira. Les personnes qui font le trajet Uvira à Bujumbura se disent asphyxiées par cette mesure et dénoncent les deux poids, deux mesures dans l'application de l'arrêté du ministre du Commerce extérieur qui vise à protéger l'industrie locale de la bière. Les détails avec Ernest Mouriro.
Ces personnes vivant avec handicap vivent au quotidien du transport en vrac des bières Amstel ou Prémices produites au Burundi, qui est des particuliers profitant des allègements douaniers dont ils sont bénéficiaires au regard de leur vulnérabilité, leur confie pour les faire traverser en RDC au moyen de leur vélo pour handicapés. Claude Missaré, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Uvira, s'étonne que cette mesure frappe plus les petits commerçants. Selon ses sources, des grosses quantités de ces boissons entreraient frauduleusement en RDC via la plante de la Rosizi, ce qui achalande les marchés de Bukavu et Uvira.
Nous, on ne peut pas comprendre. Du moment où l'autorité a interdit l'entrée de ces boissons, quand vous allez dans la cité, c'est dans presque toutes les boîtes de nuit, tous les bistrots où on va cette boisson. On ne peut pas comprendre qu'on interdit seulement aux handicapés. On laisse des camions et la boisson dans la plaine de la Ruzizi entrer.
Célestin Malumbi Bitangacha, coordonnateur de l'association ADIFA, Action pour le développement intégral des personnes en situation de handicap, plaide pour l'allègement de la mesure en faveur des handicapés.
Le fait que l'État nous prive cette activité, vraiment, nous ne savons pas comment vivre. Nous sommes tellement pénalisés et qu'ils nous cherchent aussi d'autres occupations qui peuvent nous aider quand même à vivre parce que physiquement, nous ne sommes pas aptes à faire n'importe quel genre de travail. Et s'il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de centres sociaux, l'on se pose mille et une questions. Comment est-ce qu'on va quand même supporter nos familles, la scolarité de nos enfants?
Mise au cabaret, président de la Ligue des consommateurs des services au Congo, Kinshasa, pense que pour booster l'économie locale, il est primordial que même les personnes vivant avec handicap soient mises en contribution dans la protection et promotion de l'industrie locale.
C'est inquiétant que nous puissions avoir des produits en provenant de l'extérieur et qui coûtent moins cher. Ça insécurise l'investissement local. Autrement dit, nous sommes en train de tuer notre propre économie. Nous aussi, en tant que peuple, il y a des choses qu'on doit plus favoriser. Il n'y a pas que la bière qu'on peut importer. Il y a beaucoup de choses. Là où nous devons nous interroger, les mesures d'accompagnement. Il y a la fraude qui se développe et encore à grande échelle.
Patient Kassigo, artiste et habitant d'Ouvira, pense que pour une bonne promotion de l'industrie locale, il faut que l'État diminue la taxation vis-à-vis de ces industries. À Ouvira, près de 70 personnes vivant avec handicap vivent des commissions perçues des particuliers. Selon Célestin Malumbi, un seul vélo fait entrer en vrac entre 5 à 10 caisses de bière pour une rémunération variant entre 5 à 10 dollars américains pour la personne vivant avec handicap et son pousse-poussère. Selon ses répondants de l'Association des personnes vivant avec handicap, les services de la DGDA, quand vivra, et la Direction générale des douanes et accises ont saisi entre fin septembre et octobre 2017 une trentaine de vélos des handicapés transportant des boissons Amstel. Les vélos ont été retournés aux handicapés, mais la boisson a été acheminée à l'entrepôt de la DGDA, quand vivra. La société civile locale s'interroge tout de même si cette mesure du gouvernement ne viole pas les principes de libre-échange des biens prônés par la communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL dont la RDC est membre. D'Ouvira au sud Kivu, Ernest Mouiro, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Niger, un peu plus de six mois après l'attaque du poste de police de Petel-Kolé qui a coûté la vie à deux policiers et un civil, la psychose règne toujours au sein de la population de ce village situé sur la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. C'est le constat de notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, qui s'y est rendu.
Les traces au sol du véhicule de la police calciné restent un des derniers signes visibles qui rappellent l'attaque du 27 mai 2017 sur ce poste de contrôle frontalier. Toutes les activités ont repris, mais beaucoup prennent des précautions, notamment chez les boutiquiers des abords du poste, à l'image de Ousseini Oumarou.
J'avais l'habitude de passer la nuit ici, mais depuis l'attaque, je ferme tous les jours à 17h. Le commerce ne marche pas comme avant.
Les habitudes des habitants du village de Petelkolé ont aussi beaucoup changé depuis cette attaque dans laquelle deux policiers et un civil ont trouvé la mort.
Nous avons peur. Tout s'arrête ici après la prière du soir. Dès que la nuit tombe, chacun s'enferme dans sa maison. Même les enfants ne sortent pas pour jouer.
Je suis soudeur ici, mais depuis l'attaque, j'ai transporté toute ma famille à Terra. Je viens seulement la journée pour travailler.
L'attaque du poste de Petelkolé a permis à la population du village, même si elle n'était pas directement ciblée, d'être consciente de sa vulnérabilité et donc d'être plus vigilante, selon le chef du groupement Peludi Village, Ama Djibeyrou.
Nous avons demandé à toute la population de nous alerter sur tout mouvement suspect, notamment s'il s'agit de motos qui sont interdites de circuler de nuit.
Le village de Petelkolé relève d'un des départements de la région de Tillabéri dans lequel le gouvernement nigérien a instauré depuis mars 2017 l'état d'urgence face aux attaques répétées des groupes terroristes qui agissent le long de la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Abdelrazak Idrissa, de retour de Petelkolé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Plusieurs dizaines de mendiants rapatriés de Cotonou pour le Niger, le Nigeria et même dans certains villages du Bénin. L'opération conjointement menée par la préfecture et la mairie de Cotonou vise à débarrasser les feux tricolores et autres artères de la capitale béninoise de ces personnes sans grands moyens venues chercher de quoi joindre les deux bouts. Retour sur cette opération de rapatriement qui a eu lieu la semaine dernière dans ce reportage de notre correspondant à Cotonou, de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La mendicité est un délit définitivement pris au sérieux au Bénin. La semaine dernière aura donné le signal fort. Les mendiants ne sont plus autorisés au Bénin. Au moins 128 personnes, dont des femmes et des bébés, majoritairement d'origine nigérienne, ont été rapatriées chez eux. Le préfet de Cotonou, Modeste Toboula, ayant mené l'opération, explique que toutes les dispositions ont été prises pour que la dignité humaine soit respectée.
Le dispositif mis en place permet de faire un relais d'escorte policière à chaque fois qu'ils abordent une ville à Koto. Il n'y a jamais eu une opération de ce genre qui puisse se faire sans qu'il y ait un peu de mécontentement, même si le fond de l'opération n'est pas discutable, mais sur la forme, il peut y avoir des grincements dedans, ce qui est normal. Mais les autorités ont bien compris qu'il ne s'agit pas d'une stigmatisation, il ne s'agit pas d'une discrimination, il s'agit simplement d'assainir nos villes.
Dénommée opération Zéro Mendiant à Cotonou, le rapatriement s'est fait après que des soins médicaux aient été donnés à ces mendiants. La directrice des affaires sociale des départements de l'Atlantique et du Littoral a personnellement supervisé l'opération.
Nous nous sommes préoccupés de l'état de santé des enfants. Il y en avait qui avaient des plaies, qui suppuraient. Il y en avait qui faisaient de la fièvre. Nous avons emmené sur place un agent de santé, une infirmière notamment, qui les a pris en charge rapidement. En réalité, les gens doivent comprendre que si vous voulez rester dans un pays étranger, vous avez à rester dans le pays de façon normale.
Certains Béninois avaient peur que l'opération n'entraîne un incident diplomatique, mais il faut dire que tout s'est passé conjointement avec l'ambassade des pays concernés. D'ailleurs, sur le site du rapatriement, nous avons rencontré le chargé de mission de la représentation diplomatique du Niger au Bénin, venu s'assurer du bon déroulement de l'opération, comme il en témoigne ici.
Tout s'est bien passé, c'est le fruit de la bonne coopération entre le Niger et le Bénin.
La majorité des mendiants rapatriés ont été pris devant les mosquées. Le chef service accident et constat au niveau de la police nationale précise que cela s'explique par le fait que les accidents les plus mortels impliquant les mendiants ont eu lieu devant des mosquées.
Lorsqu'ils sont en situation de mendicité, ils ne surveillent plus rien et ils empiètent sur la circulation normale et créent des accidents de route. Les trois cas de décès liés aux accidents dans lesquels lesquels sont impliqués les mendiants en tant que victimes, ces trois cas-là, tenez-vous tranquille, se sont produits non loin de la mosquée de Zongo.
Inscrit Cotonou au même niveau de standing que les grandes capitales africaines, c'est le but de cette opération qui veillera désormais à ce qu'aucun mendiant ne s'installe dans les feux tricolores, offrant ainsi une carte postale pas très réluisante de Cotonou. Il faut dire qu'avant d'être rapatrié, le gouvernement a offert une chance de reconversion professionnelle aux mendiants qui l'ont délaissé. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Au Mali, l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui était en exil à Dakar, est donc de retour dans son pays depuis hier. Un accueil chaleureux lui a été réservé par une foule immense à Bamako. Ce retour d'ATT est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
La foule venue accueillir ATT a failli le faire retourner à Dakar, car il a fallu 30 minutes d'attente pour qu'ATT puisse fouler le sol national. Les forces de l'ordre ont été débordées par la marée humaine. Abdoulaye Traoré, fan du président ATT.
Ils sont venus parce que c'est le père de la démocratie malienne. En plus encore, c'est le président qui a beaucoup travaillé pour le Mali. Et nous sommes très fiers de lui. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais il aime son pays. Et je crois qu'il y a beaucoup, il y a même des milliers de personnes, disons des millions de personnes qui ont négocié pour son retour et qui voulaient qu'il retourne.
Tellement il y avait du monde, ATT n'a pu saluer les personnalités et les membres du gouvernement qui sont venus l'accueillir. C'est après que son cortège a fait demi-tour afin qu'il puisse serrer la main des uns et des autres dans le salon d'honneur. Boubacar Saliandao.
Ce retour pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, ATT, par rapport à la crise du Nord, qui peut connaître les tenants et les aboutissants de cette crise du Nord mieux que Amadou Toumani? Il n'y en a pas. La situation que le Mali vit aujourd'hui, Amadou Toumani Touré l'a vu depuis des années. Il a dit, ce jour-là, on n'a pas l'écouté. Malheureusement, c'est arrivé. Mais nous pensons qu'avec son retour, il peut faire beaucoup de choses. Il peut être un conseil pour le président Ibrahim Boubacar. Il peut être un conseil pour le peuple malien. Et ça peut beaucoup changer.
Le retour d'ATT n'a rien de calcul politicien. Fatmata Safo Dite Djina, secrétaire aux relations extérieures du parti PDS.
Que nous mettions le Mali au-dessus de tout. Comme on dit, il faut savoir raison garder et parler avec la tête et non le cœur. Que les Maliens comprennent qu'il n'y a pas de calcul politique, il n'y a pas de calcul politicien. Le président revient à son pays, c'est pour la paix, même le Mali, plus que tout.
Si les Bamakois se sont mobilisés, force est de reconnaître que certains Maliens de la diaspora n'ont pas voulu rater ces rendez-vous. Sega Dougouré, Malien vivant en France.
Je pense que c'est une occasion que je ne voulais pour rien au monde rater. Non seulement j'ai connu ATT dans un autre monde, tel ami, il a été président de la République dans ce pays. Nous, la diaspora, il a fait beaucoup de choses avec nous et pour nous. C'est un grand jour pour le Mali. Moi, j'ai le sentiment que 2018 est une page importante du Mali qui se tourne. Après cette période pendant 5 ans que nous avons connue, ces troubles, ces moments difficiles que nous vivons également, je pense que c'est un moment historique. Ibeka vient ainsi d'inaugurer.
Ce retour d'ATT au Mali, après 5 ans, 8 mois et 5 jours d'exil à Dakar, est le signe de la réconciliation nationale. Amane Touré Di Serpent, président du CSATT.
Bien sûr, c'est fait exactement pour la paix et la réconciliation. Parce que c'est les amis d'ATT, les amis de l'Hadi Bin Bokar Keta qui sont retrouvés. Tous les parts du Mali sont là. Donc il n'y a pas de question d'opposition, rien, ce n'est que la paix et la réconciliation. Ce retour n'a rien de politique. Moi, je ne suis pas Ibeka, mais aujourd'hui, je lui dis merci. Donc ça n'a rien de politique. Je ne suis pas dans son parti, je ne suis pas dans la mouvance présidentielle, mais voilà, c'est lui qui a osé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ça de politique? À ma faveur, moi, donc ce n'est pas politique. À la faveur de son parti, non?
ATT a remercié le président Ibeka pour avoir facilité son retour au Berkay. Il a prié pour toutes les victimes de la crise malienne, a signalé que l'ancien président malien est revenu avec son épouse et ses enfants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph. Thomas Blondet était à la console. Présentation John Linden. Collaboration Raïssa Girondin. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur voafrique.com. Excellente Noël à toutes et à tous.